Très fortement dégradée lors des émeutes, l'école de Grélan rouvre ses portes à Dembéa, un symbole fort après une reconstruction soutenue par l'État. C'était attendu, le Caraca, le nouveau navire de la compagnie maritime des îles, entame aujourd'hui sa première rotation vers le Vanuatu. À son bord, 300 tonnes de fret. En métropole, l'exécutif s'adapte à la crise du pétrole. Sébastien Lecornu reconnaît qu'il faut élargir les dispositifs de soutien à l'activité économique. Il devrait faire des annonces la semaine prochaine. La publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, il ne contient pas certains éléments pourtant très attendus, mais c'était la condition de sa publication, explique son rapporteur Charles Alloncle. Et puis en sport, Arsenal bat 1-0 l'Atlético Madrid en match retour des demi-finales de Ligue des champions de football et se qualifie pour la finale. Il connaîtra son adversaire demain matin, ce sera soit le Bayern Munich, soit le PSG. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un moment très important pour la commune de Dembéa. Le groupe scolaire de Grélan rouvre ses portes ce matin. Il avait été fortement dégradé lors des émeutes de mai 2024, mais le chantier de reconstruction d'un coût de 278 millions de francs est arrivé à terme, avec le soutien de l'État à hauteur de 152 millions. Ce groupe scolaire de Grélan dispose désormais de 12 classes et accueille les élèves de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Réouverture sur laquelle nous reviendrons dans notre journal ce soir à 17h45. Les habitants de Dembéa, qui sont confrontés à des cambriolages ces dernières semaines, plusieurs faits de vol et tentatives de vol ont été signalés, dont plusieurs hier soir du côté de Koutio, Léana Colombo.
Oui, en fin de soirée, un individu a tenté de s'introduire dans une habitation située à proximité du lycée d'Ikikewe. Un peu plus tôt, vers 19h, c'est une tentative de vol de véhicule qui s'est déroulée. Les voleurs ont réussi à déplacer une Ford Ranger sur plusieurs mètres sans parvenir à la démarrer. Le véhicule a finalement été retrouvé par ses propriétaires sur une route en contrebas à quelques mètres de là. Les riverains sont parvenus à maîtriser le cambrioleur qui a ensuite été arrêté par les forces de l'ordre. Des faits de cambriolage qui ne concernent pas uniquement les particuliers mais aussi les professionnels, comme témoigne le docteur Michel Hazenfratz. Elle est médecin généraliste au CMK, le centre médical de Koutio.
Ça fait 5 semaines qu'on a eu 3 effractions, 2 dans mon propre cabinet et 1 dans le cabinet du docteur Corabeuf, mon collègue. Donc c'est le matin en arrivant qu'on constate que les volets, les vitres sont cassées et puis on découvre les dégâts qu'il y a dans les cabinets. La première fois, on m'a volé certains objets, dont ma sacoche avec laquelle je travaille, sac d'urgence avec toutes mes drogues, mes papiers, mes identifiants. Donc ça a une répercussion forcément. On a dû faire le constat au niveau du conseil de l'ordre. On a dû prévenir toutes les pharmacies parce que mes identifiants ont circulé. Puis bon, ils n'ont pas détruit mon cabinet, hein. Ils n'ont pas détruit l'ordinateur, ils n'ont pas mis des tags au mur, mais l'impact a été quand même très émotionnel.
En début de semaine, la maire de Dembéa, Cynthia Jean, accompagnée de la présidente de la province sud, Sonia Baquès, annonçait augmenter les effectifs opérationnels de sécurité de 20%, avec en parallèle le doublement du nombre de brigades par jour, passant de 2 à 4, et du nombre de patrouilles de 4 à 8, ainsi que l'élargissement des horaires de la police municipale, notamment les nuits de fin de semaine.
L'association Citoyens Mondorien, de son côté, poursuit son action. Hier, elle organisait son assemblée générale au Vallon d'Or. Il en ressort que la préoccupation première des sympathisants reste la sécurité. Et pour les habitants du sud de la commune, ça passe, selon le président de l'association, Florent Perrin, par la construction d'un pont pour contourner la RP1.
C'est le sujet le plus important qui a été abordé hier. On a pu faire le point puisque ces derniers temps, dans les médias, il y a eu notamment avec la mission interministérielle, le directeur qui en a parlé en disant par exemple qu'il n'avait pas de dossier. Ce qui a surpris un peu tout le monde alors qu'en fait il y a bien un dossier mais il est à la province sud. Donc en fait il faut que la province fasse les études préalables pour que le dossier soit transmis à l'État. D'ailleurs, ces études feront l'objet d'un appel d'offres qui va sortir de mi-mai. Donc on avance toujours sur le pont et c'est une attente très forte de la population. Plus de 85% des Mondoriens souhaitent ce pont. De notre côté, nous avons des actions de lobbying, bien sûr. Il faut mettre en œuvre toutes les actions possibles pour faire avancer ce dossier qui est le plus important pour notre région, qui se désertifie aujourd'hui. Et il faut remettre un coup de booster pour le Mont d'Or et pour son avenir. Enfin, on a 1/5 du territoire qui est aujourd'hui exempt de tout développement économique. Donc il faut absolument avancer sur ce sujet.
L'association Citoyens Mondorien a saisi le CESE via une pétition et une résolution sera examinée le 2 juin prochain devant le Congrès pour évoquer la construction de ce pont. La semaine dernière, le maire du Mont d'Or, Nina Julie, a publié un communiqué pour dénoncer la recrudescence de la délinquance, un constat partagé par l'association Citoyens Mondorien.
Et il y a aujourd'hui une insécurité grandissante sur le Grand Nouméa et au Mont d'Or en particulier, et en particulier à Yaoué, qui est aujourd'hui complètement sinistré. Alors hier, il y a eu une grosse opération de gendarmerie, il en faut encore plus souvent, parce que eh bien, il y a beaucoup de cambriolages et les gens ont peur. Et il faut que la peur change de camp. On ne comprend pas pourquoi, avec une si faible population, c'est-à-dire 240 000 habitants, on n'arrive pas à régler ces problèmes de délinquance qui pourrissent la vie de tout le monde. Je crois que les gens au plus proche de chez eux doivent être acteurs de leur sécurité, on le dit toujours. Il faut se prendre en main, il faut pas tout attendre de nos gendarmes ou de nos institutions, sinon on n'y arrivera pas. Il faut avoir aussi un réseau avec ses voisins, parce que les premiers qui peuvent intervenir, c'est les voisins. Ils arriveront toujours plus vite qu'un gendarme. Donc il faut continuer sur cette voie, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous.
L'association Citoyen Mondorien poursuit également ses actions pour accompagner les victimes de cambriolage, notamment. Elle sera également mobilisée le 15 mai à 11h45 pour rendre hommage au gendarme Molinari, tué sur le pont de la Coulée lors des violences de mai 2024. Rappelons qu'hier, le Haut Commissariat a rendu public le bilan de la délinquance 2025. Il relève qu'en Calédonie, la délinquance reste principalement urbaine et localisée et non structurée, et qu'elle est fortement liée à la consommation d'alcool et de cannabis. Dans les chiffres publiés, on révèle une évolution préoccupante des cambriolages, avec une hausse de 46,67% par rapport à 2023. Et dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le Haut Commissariat souligne que les saisies de cocaïne et de drogues de synthèse demeurent à ce stade minoritaires par rapport au cannabis, dont plus de 2,6 tonnes ont été saisies en 2025. Il est 11h37, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, nous évoquerons le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chaque mardi, à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Revenons pour poursuivre ce journal sur cet incident diplomatique entre la France et le Vanuatu. Après l'invitation d'une délégation commerciale conduite par le président du FLNKS, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rappelle que son président est la seule autorité compétente pour représenter le territoire à l'extérieur. Et Christopher Gigès annonce qu'il suspend tous les travaux relatifs à l'accord de coopération commerciale entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. De son côté, l'État précise que l'ambassadeur de France au Vanuatu ne participera pas à aucun des événements programmés dans le cadre de cette rencontre économique. Un sujet évoqué aussi ce matin par Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France dans le Pacifique.
Les autorités du Vanuatu, le ministre du Commerce du Vanuatu, avaient publié des communiqués sur le thème « Une délégation de la Nouvelle-Calédonie est en ce moment au Vanuatu pour développer les relations économiques ». Or, c'est une délégation du FLNKS. Et ça, évidemment, le FLNKS se déploie où il veut et le Vanuatu voit le FLNKS s'il le souhaite. Mais en termes de communication, le FLNKS ne représente, le FLNKS ne représente pas la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on a clarifié. Et notre ambassadeur au Vanuatu, qui avait été invité, ne participera pas parce que c'est une réunion politique. Ce n'est pas une réunion institutionnelle, économique, entre deux institutions gouvernementales ou territoriales.
Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France dans le Pacifique, qui sera, notez-le, notre invitée demain matin à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Êtes-vous choqué que le Vanuatu ait invité une délégation du FLNKS et non le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à participer à une rencontre commerciale? Si vous êtes choqué, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier. Après l'agression d'un arbitre samedi lors du match de football Lossi Horizon Sport, 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il faut radier à vie les sportifs coupables d'agression contre les arbitres. Ils sont 12% à être d'un avis contraire. Hasard de calendrier, c'est aujourd'hui le départ du navire de la CMI à destination du Vanuatu. Une liaison que la Compagnie maritime des îles espère pérenniser avec l'archipel voisin, Mickaël Juneski.
Le Caraca, le nouveau navire de transport de la CMI, quitte le port autonome aujourd'hui pour prendre la direction donc du Vanuatu. La demande a été forte pour du transport de fret, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour la Compagnie maritime des îles. Près de 300 tonnes de fret vont être transportées pour cette première rotation. Thomas Quiros, le directeur général de la CMI.
Aujourd'hui, on est fin prêt, on a tous les accords des douanes, du CIVAP, de la police aux frontières, et on est allé jusqu'au bout réglementaire. Aujourd'hui, on peut enfin faire notre départ. C'est une amorce, hein. On amorce la ligne, donc une nouvelle ligne, ça a besoin d'être rodée, de montrer la régularité aux gens. On a eu énormément de demandes depuis 15 jours, beaucoup de demandes de devis, beaucoup de consultations. Là, on part avec un petit peu de fret, on va dire, hein. Mais on va aussi surtout positionner pour ce premier voyage des containers sur Port Vila et sur Santo, qui vont permettre aussi de faire du retour pour le prochain voyage. Là, on doit être sur à peu près 300 tonnes pour une première, c'est bien.
Le Caraca doit arriver à Port Vila vendredi matin, puis samedi matin à Santo. Les demandes ont été variées pour cette première, du fret pour des particuliers, mais aussi des marchandises à destination du Vanuatu.
Alors on a eu deux déménagements, donc ça c'est des particuliers, hein, plus ou moins, enfin des transitaires qui viennent nous voir pour le compte de leurs clients, du matériel aussi de BTP envoyé, il y a des médicaments qui partent, il y a aussi des produits frais pour certaines grandes surfaces au Vanuatu qui sont intéressées par les produits de la Française, de l'OCEF, etc. Il y a de la variété. On va recommencer la réception Vanuatu sec pour le prochain voyage, quasiment à partir de la semaine prochaine. Les gens pourront déjà déposer pour le voyage suivant, jusqu'au vendredi, juste avant la semaine du départ, ça ce sera le cut-off du sec. Et ensuite, le lundi du départ, normalement on part les lundis. Le matin, on fait juste les dernières marchandises frigo, réfrigérées, périssables. C'est prometteur pour le mois prochain.
Thomas Quiros, le directeur général de la Compagnie maritime des îles. La prochaine liaison est prévue au début du mois de juin. La CMI espère pérenniser cette rotation avec une liaison à effectuer à chaque début de mois.
En bref, Nouvelle-Calédonie Tourisme et Air Canin lancent une grande campagne pour relancer le marché australien du tourisme sur le territoire. Campagne soutenue par le gouvernement, NCT et Air Canin ont lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des professionnels calédoniens qui proposent une cinquantaine de séjours clés en main avec des prestations promotionnelles. Il s'agit de mettre en avant la proximité et la richesse naturelle de cette destination pour les touristes australiens. En 2025, 11 691 touristes australiens sont venus en Calédonie. C'est 62% de moins qu'en 2023, dernière année de référence avant les émeutes. Jean-Paul Bellhomme, de retour au poste de président de l'association de soutien au droit à mourir dans la dignité. Il a succédé à Jean-Pierre Flotta, qui a exercé ce mandat pendant 4 ans. Et c'était lors d'une assemblée générale qui s'est tenue hier à la FOL. Fondateur de l'association en 2005, Jean-Paul Bellhomme avait déjà occupé le poste 15 ans. Cette assemblée générale aura également été l'occasion de faire un point de situation sur le projet de loi sur l'aide à mourir et sur le futur de l'association qui compte désormais 200 membres. Écoutez Jean-Paul Bellhomme.
On constate un intérêt croissant à cause de l'évolution des textes qui vont certainement être votés, du moins nous l'espérons, dans les prochaines semaines par l'Assemblée nationale qui va modifier certainement la loi de 2016 qui régit la fin de vie et les droits du malade en fin de vie. Moi, j'ai repris la présidence pour une petite période, je suppose, parce que j'étais président pendant 15 ans, donc il faut assurer la relève. Et c'est le but des anciens qui ont pour mission de transmettre ce qu'ils ont connu et ce qu'il faut faire pour l'avenir.
Jean-Paul Bellhomme, qui est donc redevenu président de l'association de soutien du droit à mourir dans la dignité. Il est 11h et bientôt 45 minutes. Une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde dans un petit instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les élections provinciales approchent et vous souhaitez voter par procuration ? La ville de Nouméa simplifie cette démarche pour tous les Nouméens.
Venez vous faire accompagner pour remplir votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous avez deux options sans rendez-vous.
Déplacez-vous directement à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 7h30 à 16h ou montez à bord du Proxibus. Il se déplace dans les quartiers du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site de la ville afin de connaître son emplacement exact.
Pour être sûr de pouvoir voter par procuration, n'attendez pas le dernier moment. Plus d'infos sur www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
Mangeons local. C'est la rubrique qui met à l'honneur le savoir-faire des producteurs calédoniens. Agriculture, pêche, tous les beaux produits, décryptés, pour vous, en fonction des saisons. Mangeons local, avec la Chambre d'agriculture et de la pêche, tous les mercredis à 11h et 16h.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Suite de votre journal L'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Baudin.
Les USA poursuivent leur opération Projet Liberté destinée à libérer le détroit d'Ormuz. Deux navires américains ont pu quitter la zone, escortés par des bâtiments de l'US Navy qui ont déjoué les tirs de missiles et les attaques de drones déclenchées par Téhéran. Les USA ont toutefois affirmé par la voix de Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, que la phase offensive de cette guerre était terminée. Ces nouvelles tensions, en tout cas, ne calment pas les cours du pétrole, toujours très haut. En métropole, le prix des carburants à la pompe ne baisse pas et l'exécutif est obligé de s'ajuster. À la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu reconnaît la nécessité d'élargir les dispositifs de soutien à l'activité économique et des annonces vont suivre, a-t-il dit.
L'enjeu, c'est le soutien à l'activité et à celles et ceux qui travaillent. Si on veut soutenir la croissance, si on veut soutenir le pouvoir d'achat, si on veut faire en sorte de ne pas gaspiller l'argent du contribuable n'importe comment, en promettant des baisses de taxes complètement illusoires aujourd'hui pour mieux voter des augmentations d'impôts à l'automne, il faut tenir ce cap qu'est le soutien à l'activité. Et d'un mot, je pense qu'on peut tenir ce cap, mais désormais, il va falloir changer d'ampleur et d'échelle. Et donc, le gouvernement sera amené à reprendre la parole dans les tout prochains jours et en début de semaine prochaine pour adapter l'ensemble des dispositifs au soutien à l'activité et à l'économie avec pragmatisme, sans cynisme et sans mensonge.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. L'actualité en métropole, c'est aussi la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Un peu plus de 400 pages, résultat de 6 mois d'audition accompagné de polémiques. Au bout du compte, son rapporteur, le député UDR Charles Alloncle, espère que ce rapport puisse servir de base à la mise en place de réformes concrètes. Arthur Delaborde.
Charles Alloncle, déterminé à tout faire pour que ses recommandations ne tombent pas aux oubliettes, dès le 25 juin prochain, le groupe UDR aura la maîtrise de l'agenda parlementaire grâce à sa niche. Avec l'accord de son président, Éric Ciotti, le député compte déposer un texte pour encadrer les conflits d'intérêts entre l'audiovisuel public et les sociétés de production privées. Un moyen pour lui de mettre sur la table ce qu'il considère comme la mesure la plus fondamentale de son rapport.
Pour moi, c'est une recommandation qui est totalement consensuelle. La gauche et la droite devraient se réunir pour dire « il y a des conflits d'intérêts importants ». Il y a une privatisation qui est aujourd'hui à l'œuvre sur le service public de l'audiovisuel, particulièrement chez France Télévisions, qui consacre près d'un milliard sur les 3 milliards de budget à l'externalisation de contenu à des sociétés de production privée. Et donc, il faut éviter ces conflits d'intérêts.
Au-delà de cette proposition de loi, Charles Alloncle espère que son rapport servira de déclencheur pour d'autres réformes majeures. Reste à savoir si la volonté politique sera au rendez-vous. Mais pour le député, une chose est claire, sans évolution rapide, le thème de la privatisation de l'audiovisuel public pourrait s'imposer lors de la campagne présidentielle.
Un rapport dans lequel n'apparaissent pas certaines informations pourtant très attendues, comme la nature des contrats entre France Télévisions et les sociétés de production privées, le coût de certaines émissions emblématiques, comme C'est dans l'air ou Complément d'enquête, mais aussi le salaire des animateurs vedettes. Charles Alloncle assume et se justifie en expliquant que si ces éléments apparaissaient dans le rapport, ce dernier n'aurait pas été publié.
Je sais très bien que si j'avais révélé de façon très crue, et peut-être obscène d'ailleurs, des rémunérations d'animateurs exactes dans ce rapport, je sais parfaitement que ce rapport n'aurait jamais été publié.
Le président de la commission, le député Jérémy Patrier-Lettus, s'était en effet opposé à la publication de certaines informations et il aurait voté contre la publication du rapport si ces informations devaient y figurer. En bref, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi dite philippine, portée par le député macroniste Charles Rodwell. La loi rallonge à 7 mois le délai de rétention administrative maximale à l'encontre des clandestins les plus dangereux en attente d'expulsion vers leur pays d'origine. Jusqu'à présent, la durée maximale de rétention pour ces personnes était de 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Le premier procès dans le scandale des violences dans le périscolaire parisien. Un premier animateur était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement et agression sexuelle sur 9 élèves d'une école primaire du 11e arrondissement de la capitale. Le parquet a requis 18 mois de prison. Et ce n'est pas tout, Caroline Baudry.
Interdiction d'entrer en contact avec les victimes, de paraître à l'école Titon, d'exercer une activité en contact avec des mineurs, ainsi qu'une obligation de soins. Ses têtes baissées, visage dissimulé par une capuche noire et un masque chirurgical que l'ex-animateur a quitté la salle d'audience. Le procès s'y est tenu à huis clos, sans public ni presse, pour la sérénité des débats, pour protéger les petites victimes âgées de 9 ou 10 ans au moment des faits, des câlins forcés qui se sont attardés sur leur poitrine, des surnoms, des mimes déplacés. Je te ferai des bisous partout si je le pouvais, avait dit cet agent à l'une des filles. Il avait également coutume de raconter des histoires de viol à la cantine, toujours selon les enfants dont le courage de parler à la directrice a permis à ce procès d'exister. Salut Pénélope, la mère de l'une des écolières.
Elles ont fait preuve d'une maturité, d'une lucidité remarquable. Comme le rappelle Édouard Durand, ancien directeur de la Civise. Les enfants sont des gens sérieux. Il est temps de les considérer comme tels et de leur donner les outils nécessaires pour comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, pour connaître les violences et pouvoir les nommer.
La protection des enfants, la vigilance est l'affaire de tous les adultes, a-t-elle martelé. L'animateur aurait plaidé la maladresse. La décision doit être rendue le 16 juin.
Revenons à l'actualité internationale avec cette centaine de passagers toujours confinés à bord du MV Hondus, navire qui est au mouillage au large du Cap-Vert. Parti de Ushuaïa il y a 3 semaines, un foyer de hantavirus a été détecté à bord. Il a déjà fait 3 victimes. Généralement, l'hantavirus se transmet par les rongeurs, mais l'un de ces variants peut se transmettre entre humains, explique Anne-Claude Crémieux, infectiologue.
Pour un seul type d'antivirus, au Chili ou en Argentine, qui s'appelle le virus des Andes, il peut y avoir une transmission d'homme à homme. Néanmoins, ça suppose des contacts très rapprochés, comme par exemple des conjoints. Ça veut dire que la transmission, elle est relativement faible.
2 avions spéciaux avec du personnel de l'OMS à bord sont en route vers le navire. Ils doivent évacuer 3 passagers soupçonnés d'être atteints par le virus. Une inspection et une désinfection du navire devraient ensuite permettre aux passagers de pouvoir enfin débarquer. 11h52, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, c'est toute l'actu sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Une magnifique collection de bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles et toujours nos diamants certifiés. Pour un bijou précieux, Bijouterie Guilleux, votre partenaire de confiance depuis 60 ans.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Bodin.
Et on va commencer par le football. C'est Arsenal qui est le premier club qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, Léo Fichou.
Et c'est une première depuis 20 ans pour les Gunners. La dernière fois, en 2006, Thierry Henry et ses coéquipiers s'étaient inclinés 2-1 contre le FC Barcelone au Stade de France. Ce matin, les Anglais qui avaient fait match nul, 1-0 à l'aller sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Les Anglais ont fait le minimum, s'imposer sur le plus petit des scores, 1-0 pour se qualifier. Une équipe qui progresse année après année dans la compétition. Écoutez la fierté du défenseur français William Saliba.
Je suis arrivé ici, on a commencé avec l'Europa League, après on est allé en quart de finale, l'année dernière on a perdu en demi-finale et cette année on progresse encore plus, on arrive en finale, donc on est très content et voilà, il faut qu'on continue comme ça.
Et en finale, les Gunners d'Arsenal affronteront soit le PSG tenant du titre, soit le Bayern Munich. Après un match spectaculaire à l'aller qui s'était soldé par une victoire 5-4 des Parisiens, le retour est prévu demain matin, coup d'envoi à 6h heure de Nouméa.
On va parler maintenant sport dans la région avec les Océania de natation qui vont débuter vendredi à Fidji. La délégation calédonienne composée de 9 nageurs est sur place depuis déjà quelques jours.
6 filles et 3 garçons, tous licenciés au Cercle des nageurs calédoniens ou au Dumbéa Natation. Ils sont arrivés effectivement samedi à Suva et depuis, ils partagent l'aventure et les entraînements avec les nageurs fidjiens et polynésiens. Objectif pour Cyril Huette, manager de la délégation calédonienne, porter haut les couleurs de la Nouvelle-Calédonie.
Nous avons depuis 3 jours profité des installations sportives du centre aquatique. Nous entraînons avec l'équipe de Tahiti et l'équipe de Fidji en entraînement commun. Une cohésion parfaite entre ces 3 teams. Nous reprenons chacun nos teams individuellement pour finaliser cette préparation pour les Océania qui vont commencer ce vendredi 8. Nous espérons bien sûr quelques médailles, surtout en relais mixte et en relais dames, et quelques places à prendre derrière nos Australiens et nos Néo-Zélandais bien sûr. Nous espérons quelque peu bien briller et surtout avoir des meilleures performances personnelles, des meilleures performances pour l'équipe de Nouvelle-Calédonie.
Les Océania de natation au Fidji débuteront donc vendredi avec la nage en eau libre. Théo Delande sera le premier Calédonien à engager. Il participera aux 10 000 mètres.
Parlons équitation maintenant et des cavalières du club de la Gourmette préparent un déplacement pour participer au championnat de France de saut d'obstacle. Un grand projet qu'elles veulent concrétiser pour le mois de juillet prochain, Mickaël Duneski.
Un voyage de 2 semaines pour s'acclimater, prendre contact avec des chevaux sur place avant ces championnats de France à la Motte Beuvron. 8 jeunes filles de 14 à 17 ans qui sont déterminées à faire briller leur club. Certaines témoignent de la préparation de ce projet qu'elles portent à bout de bras.
Je m'appelle Romane Clou, j'ai 16 ans. Je m'appelle Zoé Né, j'ai 17 ans. C'est une expérience qui est inoubliable parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion, en étant sur une île, d'aller se confronter justement au niveau national. On peut forcément se confronter au meilleur de Nouvelle-Calédonie, mais là c'est agréable de pouvoir partir pour se confronter aussi au niveau en France. c'était assez impressionnant parce qu'on n'aurait pas pensé forcément pouvoir partir au championnat de France. Et on remercie notre coach Pauline pour ça. On fait beaucoup de brocantes pour essayer d'avoir de l'argent. Les balades à poney qu'on fait une fois par mois pour récolter de l'argent. Des quêtes au niveau des grandes entreprises pour essayer de récolter de l'argent. On a essayé justement de faire des actions pour essayer de nous aider un maximum. Et on continue parce qu'on est très motivés et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On est quand même assez déterminés parce qu'on a des entraînements. On est quand même régulière sur les concours. On sait s'adapter aux chevaux. Oui, je pense qu'on est prête et qu'on y va vraiment pour réussir et gagner et faire des bons résultats. Oui.
Un projet avec le soutien du comité régional d'équitation qui permettra de se confronter à des cavaliers évoluant en métropole. Caroline Henné est présidente de l'association hippique de la Gourmette.
Surtout essayer de confronter ces jeunes cavalières talentueuses au niveau national. Il y a plusieurs facettes. Il y a le côté compétition au niveau national, mais pour nos jeunes calédoniennes qui sont sur cette île, c'est le premier voyage sur Paris. La SEP, la Société d'équitation de Paris, qui nous accueille, qui nous loue les chevaux, nous loue la structure. C'est effectivement un très gros projet que l'on porte depuis presque un an. Grâce à Pauline Legrand qui a des contacts à la SEP. Nous sommes à la recherche du coup de sponsors, de dons, d'aide et on fait un appel à tous les Calédoniens. On espère bien que ce projet sera porteur pour nos jeunes filles.
Et ces jeunes cavalières n'ont pas manqué d'idées pour collecter des fonds afin de concrétiser leurs projets, des brocantes, des actions pour rechercher des sponsors ou encore des balades à poney proposées sur la promenade Pierre Vernier, notamment à Nouméa. Elles ont également mis en ligne une cagnotte sur le site Hello Asso intitulée La Gourmette au championnat de France.
Et pour terminer, cet événement organisé par le lycée Blaise Pascal, le Mundialito 2026, sorte de remake de la Coupe du Monde. C'est en fait une matinée de cohésion entre tous les élèves et le personnel de l'établissement, Léo.
Oui, environ 1000 élèves et près de 100 professeurs, personnel administratif et d'éducation étaient rassemblés sur le stade Pentecôte pour une matinée de partage et de compétition, bien évidemment. Olivier Espagnier est l'adjoint au directeur délégué des formations professionnelles et technologiques du lycée Blaise Pascal.
On est bientôt à la décennie du Mundialito. L'objectif, bien sûr, c'est la cohésion, c'est regrouper 1000 élèves autour d'activités sportives qui sont organisées par, on peut les saluer, tous nos profs de sport qui se mobilisent énormément sur un événement tel que ça. Donc, il leur prévoit des matchs de foot, bien évidemment, mais aussi des activités annexes, du ski à ficelle, du bibiche, du killer au basket pour pouvoir occuper tout le monde et les mettre un petit peu sous pression compétition. Alors, il y a un challenge, un vainqueur à la fin, des compétitions, des poules, des demi-finales et une confrontation avec une équipe de profs pour la finale des finales. C'est super, on n'a pas de boue, les gamins sont contents, ils sont tous sympas, donc allons-y gaiement.
France, Japon, Canada, Sénégal, chaque classe représentait ce matin un pays lors des mini-matchs de football.
Clara et de l'équipe 205, on représente le Japon. Bon, en vrai, c'est très sympa, il y a beaucoup de cohésion d'équipe, c'est très marrant. Il fait un peu chaud, mais l'ambiance est bonne.
Moi, c'est Antoine et je représente la Croatie. Bah, moi, j'aime bien, franchement, c'est une bonne matinée. On est tous là entre classes pour s'affronter sur un duel de foot, moi j'aime bien.
Je m'appelle Amis Gonval et on est en 204 Nouvelle-Zélande. Bah ça va, on est bien, on joue au foot, tout ça, c'est tranquille. On s'amuse bien quoi.
Inatea et je représente le Sénégal. Bien et mouvementé.
Mouvementé c'est-à-dire?
Il fait chaud.
Wayne Timothy, je suis de la classe STMG2 et je représente la France. Super ambiance, super fatigant et notre objectif c'était d'atterrir en finale mais on s'est fait disqualifier par la STMG3. Et c'était mon ancienne classe, du coup, ben, ça faisait un peu plaisir de jouer avec les amis.
C'est Tiki Laini et je représente le Canada. Hyper bien, génial, ambiance festive, on est tous heureux.
Plus Canada ou France, du coup?
Non, fierté française, mais Canada dans le cœur, là.
Le Mundialito 2026 du lycée Blaise Pascal s'est clôturé vers 11h30 par une rencontre très attendue, un match entre les élèves et les professeurs.
Il est midi, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Infomac se poursuit jusqu'à 13h avec Pierre. Je vous souhaite évidemment une belle après-midi.